Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Merci d'être là. Peut-être venez-vous d'arriver sur RMC. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous. Et puis surtout, de bonnes vacances si vous avez la chance de pouvoir en profiter dès maintenant, dans l'immédiat. Et avant de retrouver tout à l'heure Christian Ekia pour la forme et la santé, c'est la maison, vous le savez, c'est avec Christian Pessé. Bonjour
eh
Christian.
Bien, bonjour mon cher François, comment allez-vous?
Ça va bien mon cher Christian.
Bon samedi.
Ah là 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 là, j'aimerais bien plonger, faire cette émission depuis un spa.
Ah,
voyez,
on va voir ça.
Avec un petit micro.
Ben, plonger, je ne suis pas sûr que ce soit forcément recommandé. En tout cas, pas du 12 mètres. Quoi.
Non, pas du 12 mètres.
Faut faire attention.
Mais imaginons tous les deux, alors vous dans votre spa. Non, pas ensemble, hein, bon. Évidemment. Chacun notre spa.
Encore qu'on commencer. Peut faire ça à plusieurs. Hein.
Oui, bien sûr.
Je parle du spa. Évidemment.
Mais moi, je préfère avoir mon spa et vous le vôtre.
D'accord.
Ça serait bien quand même.
Oui.
Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Et vous qui nous écoutez, peut-être avez-vous des questions sur le spa, justement. Spa d'intérieur, spa d'extérieur. Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des précautions pour installer tout ça? Parce que évidemment, on peut imaginer que c'est assez lourd. Vous avez des questions, 3216, l'appli RMC Direct Studio. On en parlera tout à l'heure avec notre invité, hein, Christian?
Oui, avec notre invité Nicolas Robinet de Freebies, qui est une structure qui distribue des spas divers et variés. On peut aller jusqu'au spa de nage. Hein.
Le spa de nage.
Oui, oui, pour vous qui êtes un grand sportif.
Ah bah oui, bien sûr. Avec la nage à contre-courant, c'est ça?
Oui, c'est ça. Vous pourriez vous entretenir la forme.
Ah bah oui. Écoutez, on en parlera tout à l'heure. On va aussi s'intéresser à notre conseil de l'expert. On parlera des pergolas hein, tout à l'heure. Le prolongement de la maison.
Oui, oui.
Et c'est très agréable,
c'est
vrai.
Agréable, hein, très sympathique et très esthétique.
Votre coup de cœur aussi tout à l'heure. Et puis bien sûr, je le disais, vos questions maison, 3216, l'appli RMC, Direct Studio, n'hésitez pas à nous appeler. C'est parti donc pour ce week-end des experts maison avec Christian. Et on accueille tout de suite Mickaël pour débuter.
Oui.
Bonjour Mickaël.
Bonjour François, bonjour Christian.
Bienvenue Monsieur Mickaël de Seine-et-Marne.
Tout à fait, merci.
Eh bien on vous écoute, allez-y.
Eh bien voilà, donc j'ai fait construire une maison, il y a un contrat de construction de maison individuelle.
Oui, c'est bien.
La livraison a eu lieu fin février, donc déjà avec un mois et demi de retard. Au moment de la livraison, la chaudière et le ballon thermodynamique n'étaient pas en service, ils devaient être mis en service dans la semaine qui suivait. Donc la chaudière, ça tout s'est bien passé. Par contre, le ballon thermodynamique, je n'ai pas été recontacté, malgré des relances au conducteur de travaux. Il y a eu ensuite le confinement. Et finalement, le technicien a pu intervenir début juin pour mettre en service le ballon d'eau chaude. Sauf que le ballon étant mal positionné, ce qui avait été signalé dans les réserves à la réception, il n'a pas pu le faire. Donc il a fallu que le plombier intervienne pour redéplacer le ballon. Mmh. Et au final, l'eau chaude a été mise en service que mi-juillet. Et donc ma question, c'était est-ce que l'eau chaude sanitaire était une condition à l'habitabilité de la maison? Et éventuellement, deuxième question, est-ce que dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, le constructeur a-t-il l'obligation de livrer une maison habitable?
Alors en tout cas, il est obligé de vous livrer une maison dans les dates, dans les délais.
Oui.
Donc ça veut dire que s'il y a un point sur lequel vous pouvez agir, c'est celui de l'indemnité de retard pour la livraison. Donc là, c'est déjà un point. Alors ensuite sur les équipements, vous êtes dans le cadre de la garantie biennale, c'est-à-dire la garantie de parfait fonctionnement qui vous est due pendant les deux ans, c'est-à-dire l'intervention. Là vous entrez dans le cadre de la force majeure qui a été celle du Covid. Donc là-dessus, je pense que ça sera ce qui sera argué par l'entreprise. Ce que vous pouvez toujours dire, c'est que je parle souvent du SINASAV, le syndicat justement de maintenance des matériels de type chaudière, de type thermodynamique. Ils sont intervenus pendant le Covid. Il n'y a pas eu d'interruption. Autant on peut dire qu'il y a eu une interruption sur la construction, où là les chantiers se sont arrêtés. En revanche, les techniciens de maintenance sont intervenus dans la période Covid. Donc vous pourriez faire valoir de dire, je vois pas pourquoi vous n'avez pas pu intervenir, alors que les gens du SINASAV sont intervenus. Maintenant, est-ce que vous pouvez prétendre à une indemnisation parce que vous n'avez pas eu d'eau chaude jusqu'au mois de juillet? C'est pas une question. Quand on parle de maisons habitables, c'est-à-dire lorsqu'on en sous-jacence, on y met la garantie décennale, c'est-à-dire lorsque la maison ne peut pas remplir la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire de vous accueillir. Est-ce qu'un élément de confort, parce que ça reste un élément de confort, l'eau chaude, peut être considéré comme, non pas entrer dans la décennale, parce que c'est pas le cas de la question, mais entrer dans cette notion, je dirais, d'utilisation de viabilité de la maison? Très franchement, j'en suis pas sûr. Simplement, vous pouvez toujours tenter le coup, hein, qui ne demande rien à rien. Ou vous demandez une compensation sur quelque chose. Il y a un spa. Oui, un spa.
Par exemple.
Non, mais sans aller jusque-là, moi, je serais de la négociation, parce que de toute façon, s'ils vous disent non, il n'y a plus que le tribunal. Est-ce que vous allez aller au tribunal? En principe, d'ailleurs, ça serait le grand instance, c'est-à-dire payer un avocat parce que vous n'avez pas eu de mois d'eau chaude. Je suis pas sûr que ça vaut le coup, vaille le coup.
Je
négocierais, et sur, je négocierais en disant, vous savez, il y a du monde autour, il y a d'autres maisons qui pourront se construire, ça va pas être bon pour votre réputation, faites un effort sur un point. C'est comme ça que je jouerais. En tout cas, sur le retard, là, c'est autre chose, il n'y a pas de négociation. Là, vous devez avoir une indemnité si la maison, surtout que vous me dites, c'est en février, donc c'était avant le Covid, donc il n'y a pas de raison de force majeure. Quelle serait ma position.
D'accord, bah, je vous remercie.
Ok.
Merci beaucoup.
Bon emménagement, alors.
Oui, merci.
Vous nous direz si ça marche bien et ce que vous pensez ensuite du chauffe-eau thermodynamique. En général, ça marche très bien.
Tout à fait, d'accord.
Vous êtes content de votre maison, Mickaël?
Oui, très content, oui. Pour l'instant, quand ces cartons seront rangés, oui, ça devrait aller. Pour l'instant, c'est un peu pitié.
Oui, vous pouvez pas demander au constructeur de vous aider, c'est pas.
Ouais, non, ça
oui,
vaut
non,
bien.
Non, ça non.
Et puis, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Ils risquent de vous mettre les cartons partout. Oui, il faut pas. Enfin bref. Bonne journée, Mickaël.
Très bien, je vous remercie, vous aussi.
À très bientôt. Et c'est tout comme Mickaël. Vous voulez joindre Christian, n'hésitez pas à 32-16 de standard RMC, l'appli RMC, direct studio. Il est temps de retrouver le conseil béton de Christian. Attention, c'est parti.
RMC, votre maison.
Le conseil béton de Christian Pesset.
Et je vous rappelle que juste après le conseil pergola de Christian, nous nous relaxerons dans notre spa.
On va aller dans le spa.
Le spa d'intérieur, d'extérieur. Vous vous embourgeoisez, hein, Christian. Hein.
Ah,
je vous ai connu en train d'isoler une maison par l'extérieur. Et là, maintenant, ça y est, c'est le spa.
Pas maintenant qu'elle est isolée.
Oui, c'est vrai.
Il faut bien en profiter.
Exactement.
Mais on verra qu'il faut surtout bien la ventiler.
Ah, c'est important, bien sûr, parce que c'est là, une source d'humidité.
On verra que c'est un point important, complémentaire à l'installation.
Voilà. D'un spa. Et le spa, donc, tout à l'heure, vous avez des questions sur le spa, nous aurons un spécialiste qui sera là, 3216, l'appli RMC Direct Studio, bien sûr. Donc,
n'est-ce
on
pas,
va parler...
N'est-ce pas.
N'est-ce pas. Elle est bien, ça nous la tient. En plus, on l'a jamais faite.
Non, jamais.
La pergola, donc le prolongement de la maison.
Alors, vous savez, la pergola, ça a longtemps été l'apanage des maisons provençales. Hein. Rien que d'en parler, on voit l'image de la pergola avec une treille de vigne. Ça donne de la fraîcheur, un soleil brûlant.
Il manque plus que les cigales.
Et voilà, il manque plus que les cigales, quelques verres de pastis, modérément, bien sûr.
Ah, bien sûr.
Une carafe d'eau fraîche, tout y est. On s'attend à voir Marius, César ou Fanny sortir avec un accent chantant.
Dans votre campagne à Caen, vous n'avez pas beaucoup de cigales.
Alors là, il n'y a pas beaucoup de cigales. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une pergola? Alors, une pergola, c'est une construction légère, à claire-voie, généralement en bois, qui permet à des plantes grimpantes de se développer pour faire de l'ombre et donner de la fraîcheur dans la maison et s'y détendre ou déjeuner en famille. Alors, la première des choses à se demander, c'est d'abord, est-ce qu'il faut une autorisation ou non pour monter une pergola? Alors non, si l'emprise au sol fait moins de 5 mètres carrés et si l'on n'est pas en secteur sauvegardé. Parce que finalement, c'est une construction, on va dire que c'est un peu assimilé à un abri de jardin, c'est à peu près la même réglementation. Si elle fait plus de 5 mètres carrés, moins de 20 mètres carrés ou 40 dans une ville avec un plan local d'urbanisme, dans ce cas, il faut simplement une déclaration préalable de travaux. C'est assez simplifié. Il y a un petit plan à déposer en mairie, un imprimé à remplir. Les démarches, en revanche, peuvent être nettement compliquées si on est en secteur sauvegardé ou protégé, c'est-à-dire là, en proximité, par exemple, d'un monument historique. Là, il peut peut-être y avoir la nécessité d'aller jusqu'à un permis de construire si vous avez un ABF, comme on dit, un architecte des bâtiments de France qui peut être un peu pointilleux. Alors, c'est en fait le régime des extensions donc qui est en vigueur. Si la construction est bien à claire-voie, sans toit opaque ou même transparent, parce que sinon, finalement, on pourrait assimiler ça à une véranda. La grande différence, c'est que la véranda, elle est fiscalisée, alors que la pergola ne l'est pas.
Ah, donc, ça change pas mal de choses.
Alors, attention, si vous mettez un toit sur votre pergola et puis qu'après vous y mettez des parois en verre sur le côté, c'est plus une pergola.
C'est une véranda.
Ça devient une véranda. Alors après, on va se demander quel matériau choisir. Alors, le plus traditionnel, c'est le bois, c'est agréable à l'œil, mais évidemment, il faudra à un moment ou à un autre recourir à l'entretien. L'aluminium qui tente à se développer, c'est plus moderne, ça a l'avantage d'être rigide, donc plus grande portée, évidemment c'est moins sympa que le bois pour ce genre d'utilisation, autant ça l'est pour les fenêtres, là c'est un petit peu différent. Le fer forgé, alors là c'est classique, mais on va un peu vers l'esprit tonnel, c'est beau, c'est plein de charme, faut l'entretenir parce qu'évidemment ça rouille, et puis on verra que c'est beaucoup plus cher. Alors, il existe des vérandas en PVC, alors ça présente l'avantage d'être sans entretien, mais c'est souvent assez massif parce qu'il faut augmenter la taille des poteaux pour avoir une bonne portance. Et donc, c'est un peu moins sympa, moi, je trouve. Mais enfin, bref, ça peut être tout à fait classique. L'autre question, c'est, on la pose sur quoi ? Est-ce que le sol est approprié ? L'idéal, c'est évidemment de la poser sur une terrasse, sur une dalle. Là, comme ça, on n'a pas de soucis, il suffit de l'ancrer. Sur la terre, eh bien, moi, je conseillerais à ce moment-là de faire des plots en béton. C'est-à-dire, on fait un trou, on y coule du béton avec peut-être un ou deux fers, et puis on raccroche donc la pergola dessus. Alors ensuite, se pose la question de l'ombrage. Alors, l'ombrage, classiquement, c'est quoi ? C'est des plantes grimpantes. Alors, Miu Miu n'est plus là, donc je vais prendre la place. C'est quoi ? C'est de la vigne, tout bêtement. La glycine, un rosier grimpant, clématite, le kiwi aussi, ça peut être sympa.
Le kiwi.
Parce que ça a des feuilles très larges, donc ça permet de faire un bon ombrage. Il y a évidemment tous les systèmes de store, toile à cordon, storeban, qu'on peut mettre au-dessus de sa pergola, et comme ça il disparaît quand on en a plus besoin. Et puis il y a les lames métalliques pivotantes. On est dans le high tech, les pivotantes métalliques. On parle là de pergola à ce moment-là bioclimatique.
Oh,
bravo, ça bioclimatique. Alors ça va permettre de moduler la lumière et l'ensoleillement. Il suffit ensuite, à nouveau, là, si on vitre sur le côté, on est effectivement dans une véranda. Alors avec ces vérandas ou pergolas bioclimatiques, attention à une chose, c'est que pour certaines, mettons la nuit, vous l'avez fermée. Il pleut ou il y a de la rosée, vous rouvrez vos lames, il vaut mieux pas être en dessous, quoi.
Et oui, parce qu'il y a de l'eau qui va sortir.
Ça, j'ai vu ça chez des amis. Prendre la douche n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais donc, bon, il y en a beaucoup aussi qui sont calculés pour éviter cela. Donc voilà pour la pergola.
On n'a pas parlé de prix, tiens.
Alors les prix, c'est extrêmement variable. Vous en avez en kit, vous avez commencé à autour de 1000 euros, et puis sur des fers forgés, sur des éléments, des vérandas beaucoup plus costauds, on va aller à 5000 euros.
D'accord.
Voilà, je veux dire, c'est entre 1000 et 5000 euros. Et
c'est compliqué à installer.
Non, il y en a en kit, donc qui sont tout à fait faciles à poser.
On va dans les grandes surfaces de bricolage, des kits complets.
Voilà, j'achète le kit et puis.
Et après, on peut le faire facile. Nous-mêmes.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Mais vous savez bien que le recours à un professionnel est toujours une garantie de qualité supplémentaire.
Exactement. Bon, mon cher Christian, il est 7h21. On va revenir dans un instant et on va retrouver vos questions au 32-16. Et le spécial spa sera là avec notre invité. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le spa, spa d'intérieur, spa d'extérieur. Profitez-en. À tout de suite.
RMC.
Le week-end des experts. 7h-8h,
votre maison, François Sorel,
Christian Pessé.
C'est RMC, c'est le week-end des experts. Christian Pessé est là, c'est la maison jusqu'à 8h. Que diriez-vous de parler spa maintenant.
Voilà,
ce serait pas mal. Expliquer un petit peu comment ça fonctionne.
Ce que c'est d'abord.
Voilà, ce que c'est. Où est-ce qu'on peut l'installer, à l'intérieur, à l'extérieur. Combien ça coûte. Est-ce que c'est compliqué à installer. Bref, toutes les questions que vous vous posez sur le spa, c'est maintenant, Christian.
Voilà, tout à fait. Nous sommes avec Nicolas Robinet, qui est président de Fibris Spa.
Et ne faites aucune réflexion sur le nom de notre invité par rapport au sujet,
non,
Christian.
Non, non,
parce que je vous vois arriver tout de suite avec vos gros sabots. Ce serait, je trouve, un peu déplacé.
Mais moi aussi.
Monsieur Robinet qui s'occupe du spa. Alors là, franchement, c'est très très classe.
Et voilà. Bravo. Donc, bravo.
Mais c'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça.
Bah, ça serait mitigé comme.
Ça serait mitigé. Très bien. Bravo.
Ça, donc, alors Fibris, bonjour d'abord,
Robinet.
Bonjour à tous.
On ne doit sans doute pas être les premiers à vous l'avoir faite celle-là, mais au moins comme ça, c'est évacué. Si je puis
donc,
dire.
C'est quoi Fibris Spa?
Donc, c'est une société qui fait de la distribution de spas sur toute la France.
Oui.
Le siège est basé à Reims. Nous avons des locaux qui sont notamment à Reims et à Mandelieu-la-Napoule.
Oui. Ah oui. Oui, Mandelieu, on a l'idée, il y a plus d'eau, évidemment, mais c'est en piscine, on comprendrait, mais l'espace, ça s'installe partout, y compris justement là où il n'y a pas de possibilité de mettre de piscine.
Donc. Oui, et à Reims, on fait aussi des bulles qui sont assez agréables, autant qu'un spa.
Oui.
Donc, ça se marie bien avec le spa.
D'accord. C'est quoi les bulles que vous faites? C'est-à-dire, vous faites des baignoires
On fait des breuvages avec du.
Des breuvages!
Avec du raisin.
Ah oui, d'accord. Mais je pensais dans votre entreprise.
C'est du spa, mais alcoolique, quoi.
Oui, il y a un peu de bulles, c'est vrai.
Parce que pour remplir un spa avec du champagne, il faut se lever tôt.
Plus elle est fine, meilleur est le champagne, quand même, il faut bien le dire.
Exactement.
Voilà. Alors, revenons quand même à notre affaire de spa. D'abord, c'est quoi un spa, tout bêtement? Parce que on connaît la balnéo, on connaît les piscines de petite taille. La balnéo, c'est aussi du massage, hydromassage, tout ça. C'est quoi? Comment on peut définir un spa?
Alors un spa, c'est un bassin qui va permettre de chauffer une eau jusqu'à 37 degrés.
Oui.
Donc les spas dont on parle sont des spas dits portables, transportables. Donc ils vont permettre d'être positionnés dans le jardin et on peut le déplacer si on le souhaite.
Ah d'accord. Oui, ce sont des spas mobiles.
Tout à fait.
Okay.
Qui ne nécessitent pas de permis de construire et qui peuvent peut-être installer dans le jardin.
Sous une pergola.
Attendez, exactement.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est que si, par exemple, je fais un spa en dur, je suis obligé d'avoir un permis de construire?
Alors, ça dépendra de la surface. Sur des spas transportables, on a une surface qui ne nous impose pas de demander un permis.
Mais sur un spa que j'installe vraiment, s'il est trop grand, je suis obligé de faire un permis de construire.
D'accord. Tout à fait. Donc, on a une sorte. Ça n'est pas enterré d'ailleurs, d'abord.
Alors,
ça peut l'être.
On peut les encastrer.
D'accord, encastrer.
On peut constituer une enceinte qui va recueillir le spa. C'est relativement déconseillé puisqu'on est sur un produit qui génère quand même pas mal d'humidité avec de l'électronique, des pompes, etc. Donc, il est quand même recommandé de les laisser en extérieur. À l'air pour pouvoir avoir une bonne ventilation.
D'accord.
Du produit.
Et alors, à ce moment-là, alimentation électrique, on la fait comment? On est en souterrain ou on peut être en aérien?
De préférence, en souterrain.
D'accord. Et si on est à l'intérieur, à ce moment-là, on a les mêmes contraintes que dans une salle de bain?
Tout à fait.
D'accord. Donc, les contraintes classiques de distance. Alors, en intérieur, la question qu'on se pose, c'est si on est au rez-de-chaussée, il n'y a pas de problème en terre-plein, mais si on a en dessous un sous-sol, si on veut le mettre en étage, ça pèse combien un spa, et en plus quand il est rempli, et en plus quand il y a des gens dedans?
Alors le spa tout seul va peser à peu près 400 kilos. Ce qu'il faut déterminer, c'est la charge utile de la charge acceptable de la dalle. Il faut une dalle qui soit en mesure d'accepter 450 kg au mètre carré pour un spa de bien-être.
Oui.
Si on parle de spa de nage, puisqu'on met régulièrement des spas de nage sur des toits terrasses, là, il faut monter jusqu'à 600-700 kg de charge admissible au mètre carré.
D'accord. Et là, il faut une structure particulière pour ce type d'ouvrage ou pas?
Tout à fait. Il faut une dalle qui soit renforcée avec un ferraillage supplémentaire, avec des poses IPN quand c'est nécessaire sur des spas.
Si ça n'a pas été envisagé dès le départ, à la construction en fait de l'appartement ou de la maison, c'est pas possible de l'installer. Il faut que ce soit vraiment pensé en amont.
Alors, c'est toujours mieux de le penser au début du projet. Après, il est possible de le refaire par la suite. Mais les coûts sont
Renforcer en fait. Voilà,
c'est un vous parliez d'IPN, donc IPN, ce sont des poutres métalliques. Il est toujours possible sur une terrasse de repasser des IPN qui avec une reprise de charge au niveau des murs, mais c'est une affaire vraiment de spécialiste. De toute façon, alors c'est aussi une bonne question ça. Si je veux installer un spa chez moi, donc puisqu'il y a quand même des contraintes de charge, de poids, est-ce qu'il faut que je prévienne mon syndic et que je demande son autorisation si je suis dans un collectif, évidemment. Sinon, j'aurais affaire à mon architecte.
C'est absolument nécessaire. Le syndic doit valider l'installation d'un spa dans une résidence collective.
D'accord, ça c'est important de le préciser, parce qu'on d'abord, il faut que ça rentre aussi, parce que c'est quand même avec des portes de 80, comment vous rentrez votre spa?
Alors très généralement, on utilise des grues, voire des hélicoptères pour pouvoir les placer
sur une terrasse. Mais si je suis au deuxième étage d'un immeuble de Nice, ça va être difficile. Ça se démonte pas, quoi. C'est ça que je veux dire.
Non, c'est effectivement.
Oui, ce sont des structures, des coques. C'est une mini piscine finalement. Donc,
c'est des coques en quoi? En polyester?
Non, c'est de l'acrylique.
C'est de l'acrylique, d'accord.
Nous avons Jean-Claude au 32-16. Jean-Claude qui a une petite question. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Jean-Claude. Voilà, vous êtes restaurateur, hein, c'est ça?
Ancien restaurateur. Maintenant, je fais de la boulangerie, de la pâtisserie.
Très bien. Voilà. Alors, on vous écoute.
Alors, je suis en montagne, je suis à Pralognan-la-Vanoise, pour pas vous cacher. Voilà, j'ai un bain nordique, voilà, qui est sur ma terrasse. Et j'aurais voulu savoir quel est l'entretien du bois extérieur du bain nordique.
Ah.
Voilà.
D'abord, c'est quoi un bain nordique?
Un bain nordique. Alors, si vous aimez mieux pour schématiser, c'est un grand tonneau, un gros tonneau, qui fait un diamètre de 2 à 3 mètres. Voilà. Ouais. Vous avez un mètre cube et demi d'eau dedans. On le chauffe, il y a un foyer qui descend dans le fond. Voilà. Ouais. Vous chauffez au bois. Et on se met dedans dans une température de 39-41 degrés.
Waouh, wow. C'est un peu complémentaire du sauna, c'est ça, non? Enfin, c'est dans le même genre de famille, non?
Ouais, un peu.
Est immergé dans de l'eau, attention.
Oui,
hein,
on est carrément dans de l'eau, oui. Alors, surtout quand il neige, c'est super sympa. Dehors, à la belle étoile, là, c'est super sympa.
Ah oui, ça doit être chouette, ça. Ah, et en fait, c'est chauffé avec un feu de bois, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait. Chauffé au bois, oui.
Il faut faire gaffe, il ne faut pas que le tonneau prenne feu, quand même.
Comment?
Il ne faut pas que le tonneau prenne feu.
Non, ça risque pas. Ouais.
Il s'éteindra facilement. Ouais. Parce que donc, s'il y a de l'eau dedans.
C'est un foyer en inox.
Nicolas Robinet, la question, là, parce que vous devez avoir aussi des spas, je pense, qui ont des entourages bois, j'imagine, ça doit exister.
Ah oui, pour les entourages, ce qu'on appelle les jupes. Là, le bain nordique, on est sur un produit qui est très différent du spa, puisqu'on n'a pas de massage, comme le disait monsieur. Effectivement, c'est un bain d'eau chaude, alors que dans nos spas, on a un véritable massage. Ce sont des produits thérapeutiques qui vont apporter un massage. Là, on est uniquement sur le fait de plonger le corps dans une eau chaude.
Oui, c'est du bien-être, en fait, alors qu'il fait froid dehors, c'est ça. Hein.
Exactement.
Et le bassin...
Et même en produit, on ne met que d'oxygène actif dedans. On ne met pas de chlore, on ne met rien du tout.
D'accord. Ah ben justement, tiens, ça nous amène sur...
Alors attendez, on répond peut-être à la question de Jean-Claude, parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'on met pour l'entretien du bois extérieur, Christian?
Que n'importe quel bois à l'extérieur. Hein. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir aujourd'hui peut-être de l'azur ou... Bon, je suis pas très chaud pour les vernis, parce que ça, il faut les refaire constamment. En plus, là, il y a de l'humidité à l'intérieur. Moi, je pense qu'il faut prendre, soit une peinture hydrofuge, et à ce moment-là, mais vous allez perdre l'atout du bois. Soit, moi, je mettrai de la l'azur et je la ferai tous les deux ans.
Hein. Et térébenthinus de lin?
Oh non, moi, attendez, ça, c'est. Bon, d'accord, c'est de la recette de grand-mère, je veux bien, mais vous savez, on peut toujours, en ce moment, on retourne au Moyen-Âge. Hein. Y a quand même des siècles et des décennies de recherche. Je pense que, ouais, bon, bah, vous pouvez toujours, mais vous allez voir, dans très peu de temps, ça va poisser, il va falloir le décaper, vous allez avoir un mal fou. Je sais que je ne peux pas me faire des copains là, dans la sphère écolo, mais bon, voilà.
Ouais. Mais le bois, il ne risque pas de prendre l'odeur à l'intérieur, quand on met à l'azur extérieur?
Bah écoutez, là je vais vous dire, j'ai jamais testé sur votre affaire là, mais a priori non, pas spécialement. Mais de toute façon, vous avez un fabricant qui vous a donné ça, non? Qui vous a vendu ça?
Justement, ils disent de rien mettre. Alors voilà.
Lisse de rien mettre, bah alors c'est
Ça grise maintenant, ça grise un peu, donc c'est ça.
Ah, mais alors attendez, mais alors là, vous pouvez dégriser, hein, ça c'est, ouais. Surtout lorsque vous avez beaucoup bu, mais ça c'est toujours. Mais vous pouvez dégriser, il y a des produits pour, ça s'appelle les dégriseurs, des dégrisailleurs, ça existe dans, oui, c'est possible. Alors là, vous pouvez aussi prendre, il y a des recettes, eau oxygénée, tout ça qui permettent aussi de reblanchir le bois. Mais effectivement, c'est, vous savez, bah, alors ça se patine, hein, c'est peut-être aussi, il faut peut-être accepter le charme du vieillissement du bois.
Mettre un tonneau dans une cellule de dégrisement, c'est quand même assez fort. Oui, hein.
Ça va.
C'est quand même assez
costaud. Se dégriser dans le tonneau, c'est rare.
C'est rare.
C'est bien ce que je voulais
dire.
Parce
qu'en général, on se grise. Merci Jean-Claude, en tout cas, pour
votre rappel. Merci Jean-Claude. On peut parler entretien, justement, parce que, alors on parlera aussi des fonctionnalités, parce que on a vu là que ça, c'est simplement un baquet dans lequel on se baigne dans de l'eau chaude. Mais un spa, c'est autre chose. Mais, justement, question entretien, on s'interroge. Et puis aussi, une question qui va avec l'entretien. On vide l'eau systématiquement, comme dans d'une baignoire, ou on garde de l'eau pendant un moment?
Ah non, on va garder l'eau. L'eau, on va la garder. On va changer l'eau d'un spa à peu près 3 à 4 fois par an.
D'accord.
Parce que justement, le spa est autonome et va assurer une filtration de l'eau. Donc sur 95% des spas, vous avez une filtration mécanique. Donc ce sont des filtres à cartouches, très généralement traités antibactériens, qui vont permettre de faire une filtration des éléments plus importants.
D'accord.
Ensuite, on va avoir une partie de désinfection. La désinfection, elle peut être faite soit avec un ozonateur. Donc on va générer de l'ozone et on va tuer tous les pathogènes qui sont présents dans l'eau, ou alors une lampe UVC qu'on voit beaucoup, en ce moment on en parle beaucoup avec la problématique de la Covid, c'est un système qui va permettre de détruire vraiment...
Virucide.
Exactement, qui va permettre de rendre une eau vraiment très désinfectée. Quoi D'accord. qu'il en soit, l'eau est désinfectée mais pas désinfectante, comme dans une piscine, et c'est nous... Quand nous rentrons dans le bassin, qui allons apporter une certaine contamination. Et là, on est obligé d'amener une rémanence chimique, donc avec un produit qu'on va ajouter dans l'eau du bassin. Donc ça peut être de l'oxygène actif, comme le citait monsieur, ça peut être du brome, ça peut être des ions, des solutions à base d'ions comme le cuivre, le magnésium, oui. qui vont permettre justement de détruire une contamination éventuelle.
C'est nous qui contaminons l'eau quand on rentre dedans,
c'est un peu comme une piscine finalement.
C'est comme une piscine, sauf que vous avez un volume d'eau qui est beaucoup plus restreint, avec une température beaucoup plus chaude, donc il faut être très vigilant.
Et oui, ça peut être aussi bouillon de culture, si je puis me permettre.
Mais alors, précisons bien, un spa, c'est pas une baignoire, on vient pas avec sa savonnette dedans.
Non.
Ah oui,
d'autant plus que on va y faire du massage, donc si on y met du bain moussant, les voisins vont être contents.
Et puis après, on ne voit plus rien, voilà, c'est ça.
Les fonctionnalités, c'est quoi? On a des sièges qui sont prémoulés, c'est ça, des logements, on va dire. Et puis, il y a quoi? Il y a des jets qui vous chatouillent, là.
Exactement, vous avez
des bus.
Et des bus, tout à fait.
Des bus pour faire le jet.
Ah bah oui, bien sûr, oui, c'est pas des bus qui vont voler autour, hein, ça, c'est clair.
Il existe pourtant des bus qui vont dans l'espace, j'en ai déjà vu.
C'est vrai? C'est pas vrai.
Donc, les spas peuvent être de différents nombres de places. Hein, on peut commencer à 2 places jusqu'à 9, 10 places. Effectivement, on a des places qui sont thermoformées, donc qui peuvent être des places allongées, des places assises. Sur chacune desquelles, on va positionner des bus à des endroits importants, donc sur les omoplates, sur la colonne, sur les cuisses, afin de procurer un massage.
Nicolas, vous parlez de bien-être vraiment, mais jusqu'où on va en fait dans le soin santé avec un spa?
Donc on va effectuer un véritable massage du muscle, qui peut être à différents niveaux du muscle. Dans la plupart des spas, vous pouvez avoir un massage uniquement à l'eau ou un massage avec air eau mêlée, qui va permettre d'avoir un massage ou plus profond ou plus superficiel du muscle pour avoir un véritable massage complet.
Et ça a des vraies vertus thérapeutiques?
Oui. On a de nombreux clients qui viennent nous voir en nous disant « Depuis que j'ai un spa, je me sens beaucoup mieux. »
Et alors, ça peut soigner quel mot? En tout cas, soulager quel mot?
Le mal du siècle, le mal de dos.
Le mal de dos,
est
d'accord.
Est un mal qui est fortement amélioré avec un spa.
D'accord. Finalement, les ostéopathes sont vos meilleurs amis, prescripteurs, ouais, c'est vrai?
Ah, non, véritablement.
Pas vraiment, quand même. Alors, intérieur, extérieur.
Non, mais ça, voilà, parce que ça remplacera jamais une séance d'ostéopathie ou de kiné, bien évidemment.
Non,
c'est un complément bien-être, on va dire, bien sûr. Ouais.
Donc, alors, intérieur, extérieur, on a parlé un peu de l'extérieur tout à l'heure. Donc, intérieur, on a parlé des questions de poids, mais la grosse question, c'est la ventilation, parce que c'est un peu comme une piscine intérieure, finalement.
Alors, vous savez quoi? La ventilation du spa, on en parle dans un instant.
On en parle dans un instant. Enfin,
avec notre invité.
On va prendre une respiration pour la ventilation.
Exactement. Un spécial spa ce matin. avec notre invité Christian Pessé. Vos questions 32-16, l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite.
RMC.
Le week-end des experts.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour du week-end des experts. On parle de spa ce matin avec Christian Pessé, Nicolas Robinet, le président de Fibris Spa. Et nous avons messieurs Yann qui nous attend. Bonjour Yann.
Bonjour Yann.
Bonjour. Alors, vous allez bien?
Oui, très bien. Et vous?
Ah, alors attendez. Alors Yann, je crois que au début, je pensais que vous aviez une question sur le spa, mais vous avez une question qui n'a rien à voir avec le spa, on est d'accord?
Ah non, rien du tout.
Alors vous savez quoi? Vous allez écouter attentivement la conclusion de notre sujet sur le spa et après on vous reprend, d'accord?
Pas de problème.
Est-ce que ça vous donne pas envie de prendre un spa, non?
Pas du tout.
Ben voilà, bon, ça fera plaisir à Monsieur Robinet.
Il est content. Il est là.
À tout de suite, Yann. On voulait parler de la ventilation
oui,
pour terminer ce sujet.
Ventilation, vraiment. Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors moi, ce que je conseille, c'est véritablement de mettre son spa à l'extérieur, déjà, oui. Parce que c'est là où on l'appréciera le mieux.
D'accord.
Il n'y a rien de mieux que d'être dehors, sous les étoiles, et de prendre une coupe de champagne, par exemple, dans un spa. Ouais. Et on va perdre tout ce bienfait lorsqu'on va mettre le spa en intérieur. En plus, la philosophie du spa, c'est d'avoir un corps plongé dans une eau à 37 degrés et une tête qui va être à la température ambiante.
Comment on la chauffe, cette eau, d'abord?
Donc, avec un réchauffeur.
Ah, d'accord. C'est pas l'eau du robinet?
C'est de l'eau du robinet.
Mais pas chaude?
Pas chaude.
D'accord.
Donc, que l'on va chauffer par l'intermédiaire d'un réchauffeur. De plus en plus, on voit également des systèmes de pompes à chaleur qu'on peut relier sur le spa
oui.
pour pouvoir faire des économies d'énergie.
Donc, vous préconisez plutôt l'extérieur.
Plutôt l'extérieur. Après, effectivement, il est possible de le mettre en intérieur. Par contre, il faut aménager une ventilation mécanique forcée.
Voilà.
Et si le volume n'est pas suffisamment important, il faut penser des humidificateurs.
Électriques.
Christophe qui nous demande, quelle est la différence entre un spa et un jacuzzi?
C'est exactement la même chose.
C'est la marque au départ.
Exactement.
C'est la marque historique.
Jacuzzi, c'est une marque.
Ouais.
C'est comme frigidaire, voilà. En fait.
Monsieur Jacuzzi a inventé la baignoire balnéo.
Ah oui.
Ensuite, le spa.
Monsieur Jacuzzi, tiens.
Monsieur Jacuzzi, oui.
Bon, très bien. Et ça coûte combien, un spa, pour terminer?
On démarre à peu près aux alentours de 6 000 euros jusqu'à 70 000 ou voire même beaucoup plus pour des spas sur mesure.
Et pour 6 000 euros, on a quoi? Un spa pour deux personnes, c'est ça?
Oui, à peu près.
Voilà, mais
de trois personnes.
Quand vous parlez de 6 000 euros, c'est installation comprise ou pas?
Alors ça dépend des vendeurs, mais ça peut être installation comprise.
Très bien,
d'accord.
Voilà, Christian, voilà, nous voilà convaincus.
Mais oui, je trouve que c'est
un spa dans votre véranda à Caen.
Oui, ça serait sympa, oui, dans ma véranda, mais alors je ne sais plus où je vais mettre mon bureau parce qu'en ce moment je l'ai transformé là. Mais oui. Non, mais c'est typiquement l'objet, ça peut être d'une extension, d'une véranda pour spécifiquement installer ce type de matériel.
Merci beaucoup Nicolas Robinet, merci d'avoir été avec nous ce matin. Yann est de retour. Oui. Bon Yann, c'est à vous maintenant.
D'accord. Alors la semaine dernière, vous avez parlé sur la climatisation. Et donc je vous ai appelé pour parler d'une climatisation, un procédé hydraulique de chauffage et de rafraîchissement par le plafond.
Oui.
Et j'aurais voulu avoir des précisions là-dessus, parce qu'il n'y a que 10 ans de recul. Et
il y a beaucoup plus que ça. C'est il y a 10 ans qu'on commence vraiment à les commercialiser, mais ça existe depuis, j'allais dire presque les Romains, mais j'exagère.
Non, mais j'aurais voulu savoir les inconvénients et les avantages.
Alors, les avantages, c'est les mêmes que le plancher chauffant, c'est-à-dire que ça diffuse une chaleur douce essentiellement par rayonnement, donc c'est très sympa. Le gain de place supérieur même encore au plancher chauffant, parce que lorsque vous avez un plancher chauffant, on vous conseille de pas mettre trop de choses au sol. C'est-à-dire que par exemple, on va vous dire éviter de mettre un tapis, éviter de mettre un épais tapis, vous voyez, au milieu de la pièce, éviter de me mettre trop de fauteuils club, parce que évidemment tout objet qui est au sol dans un plancher chauffant neutralise une partie de la chaleur. Donc ça, ce sont les gros avantages. Et puis en plus, comme ça, vous n'avez pas de contrainte de type de revêtement au sol, puisque lorsque vous avez un plancher chauffant, vous pouvez pas mettre n'importe quel revêtement au sol, et notamment ça pose de sérieux problèmes quand on veut mettre du parquet, parce que là il y a des contraintes techniques qui sont importantes. Donc là du coup vous n'avez plus de contraintes au niveau du sol. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Le seul inconvénient, c'est que c'est plutôt plus cher qu'un plancher chauffant. Et puis surtout que ça suppose une hauteur sous plafond disponible relativement importante. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais comme comptez que le plafond chauffant va à peu près vous prendre 10 centimètres, plus éventuellement un faux plafond, etc. Donc ça veut dire qu'il faut au minimum que vous ayez 2,50 mètres sous plafond, minimum. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avoir un effet de baisse du plafond qui va vous laisser. Si vous avez 2,40 mètres par exemple sous plafond, une fois que le plafond chauffant est rafraîchissant, puisque vous pouvez l'avoir aussi du coup rafraîchissant avec la pompe à chaleur, ça va être moche, quoi. Ça va être difficile, ça va être pressant. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous avez comme hauteur sous plafond?
Alors, en fait, la hauteur de sous-plafond avec le système hydraulique, je vais être à 2,38. Mais on a droit d'aller jusqu'à 2,33.
Non, mais on peut avoir tous les droits. Simplement, si vous êtes à 2,30 mètres, bientôt, il va falloir baisser la tête si vous faites venir des basketteurs de la Dream Team, quoi. Hein, donc, il faut quand même faire attention. 2,40 mètres, c'est vraiment limite. C'est vraiment limite. Hein.
Merci Yann.
Pas techniquement, mais oui. De bien-être dans la pièce.
Yann, merci pour votre appel. Christian, on va terminer ce week-end des experts maison avec votre coup de cœur ce samedi.
Voilà, mon coup de cœur, c'est la montée en puissance du bricolage en ligne suite au confinement. C'est ce qu'indique la FMB, la Fédération des magasins de bricolage. Croissance des achats en ligne via les grandes surfaces de bricolage, mais aussi les pure players, comme on dit aujourd'hui pour les sites spécialisés. La grande distrib a plutôt baissé. On parle de 0,3%. La vente en ligne dans les matériels de bricolage et de construction, ça représente encore que 9 à 10% du marché, donc ça n'est pas encore énorme, mais ça devient significatif avec quand même sur 2 ans 120% d'augmentation. Donc ça veut dire que c'est quand même très très important. Alors il y a TBC Innovation, c'est une structure que j'aime bien parce qu'ils travaillent justement sur toutes les innovations concernant la construction. Alors eux, ils ont fait une étude et ils ont observé que les particuliers abandonnaient un peu la déco au profit des travaux, ce qu'on appelle dit de seconde œuvre, c'est-à-dire les équipements, les aménagements plus lourds, la pose de carrelage, l'isolation, etc. Un signe, l'achat des volets roulants en grande distribution ou en ligne a augmenté de 22%. Donc ça veut dire que les Français basculent plus sur des travaux libres. Parallèlement, les sites d'information pratique sur la maison, ce qu'on appelle donc les pure players, connaissent une forte croissance d'audience. C'est ce que j'ai pu noter sur mon propre site.
Parfait.
Renoinfomaison.com. Je me permets.
Mais allez-y.
Je me permets.
Faites-vous plaisir, Christian. Bien sûr. Il faut toujours se faire plaisir dans la vie.
Charité bien ordonnée commence par soi-même.
Tiens Manu, sur Direct Studio, on parlait de spa tout à l'heure, qui nous dit « j'ai un spa dans une véranda depuis 4 ans et j'en profite toute l'année, même par tempête ». Et là, c'est super agréable. Pour info, malgré tout, il faut prévoir 20 euros d'électricité par mois. Visiblement, ça consomme pas mal d'énergie, un spa. Oui. Bon, après, voilà, c'est le témoignage de Manu. Christian, on se retrouve la semaine prochaine.
Mais naturellement,
dans le Grand Rush. Ouais. Donc, attention, hein. Conseils spéciaux pour tous ceux qui sont sur la route et qui veulent peut-être avoir vos conseils maison. Et dans un